Bonjour, bienvenue sur Graphite. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission débat dans laquelle nous allons parler de théorie du complot et d'arguments fallacieux. Nous sommes 6 étudiants de l'UTC, donc je m'appelle Jules Roch, je suis en première année et je serai accompagné par Agathe aujourd'hui pour présenter cette émission.
Bonjour, je suis Agathe Bedou et je suis en 3e année à l'UTC.
Voilà, nous sommes également accompagnés de 4 autres étudiants, si vous pourriez vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Eugénie et je suis en TC1.
Bonjour, je m'appelle Raphaël Berry, je suis en 3e année.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Marquez et je suis en GB1.
Bonjour, je m'appelle Vincent Lemerle et je suis en TC3.
Très bien, merci beaucoup. Et donc nous allons aujourd'hui parler de théorie du complot et d'arguments fallacieux. Mais avant toute chose, faisons un petit point sur l'actualité de la semaine avec une actualité qui a marqué donc cette semaine. Le 18 novembre dernier, un utilisateur de Twitter a tweeté qu'il avait reconnu Greta Thunberg, une fameuse activiste suédoise pour le climat, dans une photo de 1898. Avant de continuer, faisons un petit point sur Greta Thunberg. Est-ce que Agathe, tu pourrais nous parler un peu d'elle ?
Bien sûr. Alors, Greta Thunberg est une militante suédoise pour la lutte contre le réchauffement climatique. Âgée de 16 ans, elle est l'initiatrice de la grève scolaire pour le climat et intervient en cours de conférence afin de mettre la question du climat au centre des débats. Elle a pour cela reçu différents prix et distinctions et est connue pour ses actions à travers le monde. Donc je te redonne la parole.
Merci beaucoup. Et donc, dans cette photo qui a vraiment fait le tour de la toile il y a quelques jours, la photo donc montre 3 enfants américains qui travaillent dans la recherche d'or au moment de la ruée vers l'or aux États-Unis. Et donc, au premier plan, on voit donc cette jeune fille qui a le même regard, la même coiffure et le même visage, en fait, tout simplement, que Greta Thunberg. Et donc, l'utilisateur de Twitter a exprimé donc cet amusement en vue de la ressemblance de Greta avec la photo. Et donc, il a émis une petite théorie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça vite fait, Agathe ?
Alors oui, donc cette photographie datant d'il y a 121 ans a lancé sur Internet la rumeur improbable selon laquelle la militante suédoise aurait voyagé à travers le temps pour sauver la planète. Pour certains, la militante environnementaliste serait venue du futur pour sauver la planète et ils émettent différentes suggestions supposant un voyage temporel. Certains affirment peut-être qu'elle vient du futur et qu'elle a été renvoyée à des moments clés de l'histoire pour stopper le changement climatique. On retrouve différentes théories farfelues. Donc je te laisse enchaîner là-dessus.
C'est ça, on retrouve donc beaucoup de théories comme cela sur le web. Et donc cette théorie a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours. Et donc aujourd'hui, ce sera le thème de notre émission. Pas donc cette théorie-là, mais les théories du complot en général, dont on va donc parler aujourd'hui dans cette émission.
Exactement. Donc on va d'abord introduire le sujet par une théorie du complot qui est assez connue, qui est la théorie des récentistes. Alors Eugénie, est-ce que tu peux nous introduire un peu ce que c'est la théorie ? Et donc on discutera ensuite pour parler des différents arguments de cette théorie, comment on peut détruire un argument, comment en fait on met en place l'argument et comment d'un autre côté on peut montrer qu'il est faux.
Alors oui, donc moi je vais parler du récentisme, donc déjà je vais vous définir un peu ce que c'est. C'est une théorie qui prétend raccourcir le temps historique, donc le plus souvent en retirant le Moyen-Âge. Après les théories sont très différentes d'une personne à l'autre, donc on va se baser sur celle d'Anatoly Fomenko, donc, qui est l'un des fondateurs de la théorie récentiste. Selon lui, l'histoire telle que nous la connaissons est une construction qui aurait été faite à partir de 1582 sous le pontificat de Grégoire XIII, selon des documents falsifiés. Voilà, donc comment une théorie si abracadabrante aux yeux du commun des mortels a-t-elle pu s'imposer auprès de milliers de personnes ?
C'est une question qu'on se pose en effet, parce que raccourcir l'histoire c'est quand même quelque chose de fort.
Donc avant toute chose, je vais juste vous présenter un petit peu le personnage d'Anatoly Fomenko. Donc, il naît le 13 mars 1945 en Russie. C'est un académicien soviétique, membre de l'Académie des sciences de Russie, titulaire de la chaire de géométrie différentielle de l'Université de Moscou, bref, topologiste de réputation mondiale. Donc, il a reçu aussi donc, le prix d'État de la Fédération de Russie en 1996. C'est une sorte de prix Nobel, entre guillemets. Et voilà, donc c'est un adepte slash fondateur. Plutôt du récentisme.
Donc c'est une personne qui est assez reconnue en fait dans son domaine.
Il est
malgré le fait qu'il
dans,
est plutôt
dans son
une
domaine, c'est-à-dire dans les mathématiques, disons.
Oui, oui, voilà, c'est
et
ça.
Et en Russie, oui.
Ok, l'ensemble. D'accord.
Voilà,
d'accord.
C'est quelqu'un qui est, oui, qui est très très reconnu.
Ok.
Alors, du coup, donc, ce mouvement, il se base sur les dires de Nikolaï Alexandrovitch Morozov, qui est un politicien, et donc l'un des tenants de cette théorie, et il est soutenu par le champion d'échecs Garry Kasparov. Donc bon, là, ça reste en Russie, parce que c'est une théorie qui est donc née en Russie et qui a eu beaucoup, beaucoup de succès là-bas. En France, la portée a été quand même assez faible. Cependant, il y a un fervent partisan donc, de cette théorie qui s'appelle François de Sars, qui est un zoologiste spécialisé dans la science de l'évolution, donc quelqu'un qui a aussi entre guillemets de l'autorité dans son domaine, et donc qui a écrit un livre qui s'appelle « Mais où est donc passé le Moyen-Âge ?». Voilà, donc les récentistes sont assez flous. Le nombre d'années à retirer, il va de 300 ans à plus de 1000.
Oui, quand même.
Oui, donc voilà. Après, nous, on étudiera principalement celle d'Anatoly Fomenko. Voilà. Donc, petite parenthèse, juste pour dire quelle chronologie on suit. Donc, nous, on suit la chronologie chrétienne qui a été fixée donc, au XVIe siècle par Juste Scaliger, donc, d'où le nom de chronologie scaligérienne. Voilà, et donc Anatoly Fomenko développe donc sa propre théorie récentiste, et il s'appuie donc sur les mathématiques, reine des sciences et politiquement neutre, centrale dans le système soviétique. Donc je vais vous donner quelques exemples pour appuyer donc cette théorie. Donc qui sont les suivants. Alors, donc selon Anatoly Fomenko, avant le Xe siècle, l'écriture n'existait pas encore. Toutes ces informations, je les tire d'un documentaire qui s'appelle « La reconstruction de l'histoire », dans lequel il y a de nombreuses interviews d'Anatoly Fomenko. J'ai pas amené de séquence ici parce qu'elle est doublée en français, etc. Donc c'est pas pertinent. Et bon, voilà. Donc c'est-à-dire qu'avant le XIe siècle, c'était la préhistoire. Les pyramides, le Sphinx, ont été construits au XIVe siècle de notre ère. Ensuite, selon lui, il y a eu deux Roms. Donc la première Rome qui fut Alexandrie et la deuxième Rome qui fut l'Istanbul moderne, mais aussi donc Jérusalem biblique, Troie antique, Constantinople médiévale et Byzance du Moyen Âge. C'est-à-dire que toutes ces villes sont entre guillemets la même.
Mais comment il explique cette théorie ? Donc il dit que en fait toutes les histoires qui sont relatées à ces villes, enfin qui relient ces villes avec les autres, en fait, ce serait ouais. Du coup la même ville, en fait, la même histoire.
Oui. Enfin pas exactement pas la même les histoire, mêmes. Mais... Ouais, pas exactement les mêmes histoires, mais en fait. Oui, c'est ça. Après, ce que je me suis quand même posé comme question, c'est comment il a pu dire que Jérusalem, qui est en Israël, soit la même ville que Istanbul, oui, qui voilà. est en Turquie. Et alors, à cette réponse, il dit en fait que Jérusalem aurait été construite de toutes pièces au milieu du désert au XVIIIe siècle. Et donc, ce serait une énorme falsification. Enfin, ce serait le complot de l'année, entre guillemets, je veux pas être non plus trop médisante, mais voilà. Du coup, on aurait construit Jérusalem en faisant croire qu'il y avait là-bas le corps du Christ, etc. Quoi.
Alors Vincent, je vois que tu veux prendre la parole, je te laisse enchaîner là-dessus.
Fomenko s'appuie en fait sur des arguments qui sont pour lui très solides. Notamment le fait qu'à l'époque, on écrivait J ou I avant la date. C'était pour dire en gros l'ère... Avant, si par exemple on était en l'an 300, on mettait un J devant le 300. Selon lui, ce J se serait transformé en fait en 1. Et du coup, au lieu d'être à l'an 300, on serait à l'an 1000. C'est le linel de Jésus. Le linel de Jésus, c'est le vêtement qui a recouvert Jésus lorsqu'on l'a mis sous tombeau. Et ce linel a été daté du 14e siècle.
Excuse-moi, je crois qu'on dit linceul.
Oh, excusez-moi, linceul. qui a été daté au carbone 14 au 14e siècle. Donc, c'est le linceul qui a été daté au 14e siècle. Ce qui est très cohérent avec la théorie de Fomenko, qui lui date la crucifixion de Jésus
ah oui.
à 1086.
Ouais, 1185.
Voilà. Donc, il s'appuie
d'ailleurs,
sur ce
je te coupe
d'argument.
Une seconde. Selon lui, les rois mages, en fait, seraient un tsar russe, donc le tsar russe Vladimir, sa mère et son chef de guerre. Donc, ce serait l'équivalent de Melchior, Balthazar et Gaspard. Voilà.
Il a aussi d'autres arguments comme on va trouver en fait du fer dans des tombes remontant à moins 3300 ans. Alors qu'on a commencé à fabriquer du fer en moins 1000 avant Jésus-Christ. Donc, ça, pour lui, c'est pareil, d'autres preuves valables comme quoi le Moyen-Âge n'aurait jamais existé.
Ouais, et donc moi, je vais juste. M'appuyer sur quelques arguments pour vous expliquer en fait comment démonter entre guillemets. Donc en fait, typiquement, il pense qu'il y a des doublons dans l'histoire, donc que l'histoire se répète sous forme de cycle. Voilà, donc je vais reprendre l'exemple du XIIIe siècle, où en fait, selon lui, les croisés, donc l'époque des croisades, c'était en fait des cosaques, qui sont des troupes à cheval de l'armée russe. Et c'est les mêmes personnes que les Achéens, qui sont dirigés par Achille dans la guerre de Troie. Et Achille, en fait, serait le knez russe de la Horde, donc de l'armée russe. Bon, vous aurez remarqué, tout est un peu autour de la Russie. Et donc voilà. Et donc en fait, selon lui, les croisades, c'est l'équivalent de la guerre de Troie et c'est aussi l'équivalent de la prise de Constantinople. Donc ça, typiquement, c'est une déduction erronée parce que en fait, c'est une équivocation, c'est-à-dire qu'on croit que deux choses ont la même, enfin, lorsque deux choses ont la même propriété, du coup, on croit qu'elles sont identiques. Donc il trouve des similitudes entre différentes étapes de l'histoire et il les combine pour n'en faire qu'une. Voilà. Et aussi, bon, bien sûr, je vais quand même ajouter qu'il y a l'argument d'autorité, c'est-à-dire qu'il utilise les mathématiques qui sont un peu, voilà, j'ai déjà dit, mais reines dans le système soviétique et même de nos jours dans l'ensemble. Et donc voilà, de son statut et par l'utilisation des mathématiques, il a clairement un argument d'autorité.
D'accord, très bien. Donc ça veut dire que ce que tu me racontes, c'est qu'en fait, il y a des types d'arguments comme ça qui se répètent et qui sont utilisés dans plusieurs théories.
Exactement.
Voilà. Donc toi, Raphaël, tu as également des arguments pour une théorie qui est totalement différente, qui est la théorie des pyramides, dont tu vas nous expliquer. C'est et ça. Également expliquer ces arguments qui rejoignent en fait la même forme que les arguments que nous a présentés Eugénie et Vincent.
D'accord. Bah, j'ai regroupé les théories, les plus folles autour des pyramides de Gizeh.
Oui, il y en a beaucoup.
Il y en a pas mal. Des édifices extraterrestres, un vestige de l'Atlantide, ou encore des prophéties sur la fin de l'humanité. Alors, le mystère des pyramides de Gizeh alimentait les théories les plus farfelues. Donc, à savoir que les pyramides de Gizeh se situent sur le plateau de Gizeh en Égypte. Il y a la pyramide de Khéops, qui est la plus grande, celle de Khéphren et celle de Mykérinos. Alors, elles ont été érigées il y a 4500 ans, culminant à 146 mètres de hauteur et ont été construites à partir de 2 millions de blocs de pierre de 2,5 tonnes chacun. La construction des titanesques pyramides de Gizeh, des tombeaux à l'honneur des rois et reines d'Égypte, a longtemps été entourée de mystères, tant les moyens techniques de l'époque semblaient limités. Donc, d'après la plupart des égyptologues, la pyramide de Khéops aurait été construite en 20 ans, correspondant à la durée du règne de Khéops. Donc de moins 2548 à moins 2528 avant Jésus-Christ. Donc il y a des statistiques qui montrent qu'à raison de 12 heures de travail par jour, tous les jours de l'année, ça représenterait un bloc extrait taillé et mis en place toutes les 2 minutes 30. C'est pourquoi autour des pyramides, il y a beaucoup de mystères. De plus, les données archéologiques sur ces chantiers gigantesques restent très fragmentaires, tandis que les théories fleurissent et se multiplient, surtout depuis la fin du 19e siècle. Donc, je vais commencer par aborder les différentes théories. Donc, la première théorie, c'est comme quoi les pyramides sont des édifices construits par des extraterrestres, assez connus finalement. Alors, évidemment, au même titre que les Moai de l'île de Pâques ou que les pierres de Stonehenge, les pyramides de Gizeh se sont vues prêter des origines extraterrestres. Le livre à succès « Présence des extraterrestres » de l'écrivain et ufologue suisse Erik von Däniken, publié en 1968, garantit ainsi que seule une civilisation extraterrestre dotée d'une technologie plus avancée aurait été capable d'ériger de tels monuments. Longtemps, plusieurs commentateurs ont cru que ces pyramides serviraient de balises d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres. Plus récemment, le soupçon d'une civilisation plus avancée a également été popularisé par le film « La révélation des pyramides ». Un long métrage conspirationniste. C'est un long métrage conspirationniste imitant le style du documentaire cumulant plus de 2 millions de vues en ligne. Les enquêteurs en herbe Patrice Poyard et Jacques Grimaud y établissent un lien entre plusieurs sites historiques antiques en pointant leur similitude de construction et en évaluant leur placement sur le globe, témoignages et graphiques à la clé. Tu veux en parler,
Non,
Eugénie?
Mais je disais juste que oui. Enfin, j'ai eu l'opportunité de voir ce documentaire et que c'était vraiment, enfin, marrant de voir en fait les relations qu'ils trouvaient entre. Donc en fait, ce qu'ils se sont mis en tête, c'est de faire des liens entre l'île de Pâques, Gizeh, au Pérou,
Machu Picchu.
Le Machu Picchu, voilà. Et en fait, ils tracent des lignes et ils disent oui. Alors, vous voyez, on trace une ligne là. C'est une ligne qui fait la taille de l'équateur et elle est inclinée de 30 degrés par rapport à celui-ci. Et en fait, ils trouvent plein de choses comme ça, de liens. Ou alors, ils n'arrêtent pas de mesurer des dimensions dans les pyramides et de trouver à chaque fois le nombre d'or ou
pi. Ouais.
Ou pi, ouais. Ouais. Et du coup, ils trouvent plein de hasard entre guillemets, comme ils s'amusent à le répéter dans le documentaire. Et puis à la fin, en disant vous vous rendez compte, ça fait quand même beaucoup de hasard, enfin de façon un petit peu ironique, quoi. Du coup, voilà.
Après, il y a la théorie comme quoi les pyramides sont des vestiges de la puissante Atlantide. Alors, et si la civilisation avancée qui aurait construit les pyramides n'était pas un peuple d'extraterrestres, mais ce peuple mystérieux de l'Atlantide? Cette île gigantesque, évoquée par le philosophe Platon dans plusieurs ouvrages, était selon lui exemplaire par son courage et sa maîtrise de l'art de la guerre, avant d'être engloutie par les eaux avant son temps. Le site Monde Nouveau, féru de phénomènes paranormaux, assure que ces pyramides seraient donc des vestiges de cette civilisation avancée, preuve de son savoir et de sa puissance incontestable dans le monde. Donc là encore, on peut voir que l'autorité de certains écrivains permet d'appuyer leur théorie. Puis ensuite, alors on va passer une nouvelle théorie maintenant. Donc, comme quoi les pyramides seraient une prédiction de la fin du monde. Donc celle-là, elle est assez connue. Donc encore une fois, elle est appuyée, enfin cette théorie est appuyée par un auteur écrivain, Maurice Chatelain, qui selon lui, les pyramides prouvent non seulement l'existence d'une civilisation pré-biblique depuis longtemps disparue, mais elles offrent aussi une trace écrite d'une chronologie géométrique des dates les plus importantes de l'histoire de l'humanité, relate encore le livre Les théories folles de l'histoire. Ces pyramides auraient donc un pouvoir prophétique et prédiraient les dates des grands événements de l'humanité. On pourrait d'ailleurs y lire, selon un ouvrage cité par l'auteur, les grandes dates de l'histoire de France à compter de la Terreur, y compris 1814. La pyramide y dévoilerait aussi la fin du monde, selon l'auteur conspirationniste David Mead, qui proposait la date du 23 septembre 2017 pour ce funeste événement.
C'est raté.
L'affirmation était si souvent relayée qu'elle a dû être démentie par la NASA.
Okay, ouais.
Ça a pris beaucoup d'ampleur, okay. Effectivement. Après, on a aussi... il y avait comme quoi les centrales électriques, comme quoi les pyramides étaient des centrales électriques sans fil. Alors, faut oublier les extraterrestres et les civilisations avancées disparues. Pour certains théoriciens, les pyramides auraient en fait servi de centrales géantes d'électricité pour les Égyptiens. Ce serait la lecture de hiéroglyphes qui permettrait d'étayer cette théorie. Grâce à cette électricité, le peuple de l'Égypte antique aurait été capable de concevoir de nombreux ouvrages perfectionnés comme des plaçages d'or ou de tissage. Certains des symboles antiques prouveraient même que la diffusion de l'électricité se serait faite sans fil.
Ah oui, ouais, c'est fort.
Ouais, c'est très très fort.
Puis... Et est-ce que tu sais quel type d'argument ils utilisent pour ça? Est-ce que c'est plutôt basé sur les mathématiques ou sur... Par exemple, personne n'a dit que c'était faux, donc pourquoi ce serait pas vrai?
Ce serait plutôt ça sur les pyramides, ce serait plutôt personne n'a montré, personne ne détient la vérité absolue.
Oui, c'est ça.
Donc, on peut émettre cette hypothèse et après, avec le temps et le regroupement de plusieurs personnes, ils finissent par dire que c'est...
Ouais, et surtout que
c'est la vérité.
Ouais, et surtout qu'il y a plein de mystères, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas trop à expliquer encore. Donc typiquement, dès qu'il y a une chose qui n'est pas complètement démontrée et complètement, dont on est sûr, quoi, ils se permettent de chercher entre guillemets la petite bête. Donc typiquement, voilà, on ne sait pas par exemple dater les statues, mais on sait dater les roches qui forment ces statues, voilà. Et donc, du coup, ils expliquent qu'on peut avoir des écarts de date, des siècles même, au niveau des constructions, ou alors à quel point la roche, elle est polie. C'est pas possible de polir une roche avec des outils anciens.
Et aussi, le fait que maintenant, on utilise du ciment pour coller, regrouper deux briques, par exemple, alors qu'eux, ils n'utilisaient pas de ciment, ils avaient des techniques, ils avaient qu'un maillet en pierre et des cordes et ils avaient un burin en cuivre. Et ils n'avaient que ces outils-là. Et du coup, ils utilisaient plein d'arguments complètement frauduleux.
Ouais. Et après, moi j'aimerais bien revenir juste sur un argument qui est, qui est assez marrant, c'est justement c'est dans ce documentaire, il parle en fait de la précision de la coudée. C'est-à-dire la coudée, c'est la mesure antique des Égyptiens. Mmh. Et donc ils disent, oui, vous vous rendez compte, sur un édifice qui fait 230 mètres de haut, ils ont réussi à avoir une précision au centième de millimètre, parce que la coudée, elle mesure 0,523 mètres. Et en fait, le truc, c'est que si on y réfléchit deux secondes, c'est la conversion qui fait que qu'il y a cette précision au centième de millimètre. La vérité, c'est que vu qu'ils avaient un bâton, en fait, c'est l'équivalent d'un bâton pour mesurer. Enfin, leur argument, il n'a pas du tout de, enfin, sa pertinence dans le truc, quoi. Et si on réfléchit pas bien à ça quand on regarde le documentaire, on se dit, ah ouais, c'est vrai, c'est fou quand même. C'est précis au centième de millimètre.
Oui, parce que
ils en mettent en question certains détails et.
Ouais, surtout quand on regarde ce documentaire-là, j'utilise beaucoup cette technique de juste donner les faits, les trompeurs et juste laisser les gens faire la déduction. Je reprends l'exemple que tu disais tout à l'heure, un bloc posé toutes les 2 minutes 30. Ça, c'est en partant du principe que les 20 000 ouvriers, ils prennent un bloc, ils le taillent, ils le transportent, ils le posent et ils vont en tailler un autre. Alors qu'en réalité, forcément, ils en taillent plusieurs en même temps, ils les transportent.
Et surtout, il y a un nombre de personnes incalculables qui travaillaient pour ça.
Oui, déjà, c'est une énorme simplification. Et ensuite, quand on regarde, ils travaillent avec les estimations minimales de temps, donc 20 ans de construction et d'ouvriers, sachant qu'il y en a beaucoup plus. Et aussi, j'avais vu dans le documentaire, il parle de tout le chemin sur le Nil. Alors qu'en fait, c'est qu'une toute petite partie des pierres qui ont fait tout ce chemin-là. La plupart étaient juste à côté de la pyramide.
Ok, bah typiquement ça, ils omettent de le préciser, quoi.
Non, en fait, ils se servent du flou pour avancer leur propre théorie.
Ouais.
Et toi, Vincent, tu as également une théorie à nous présenter. Est-ce que, donc, quels sont les types d'arguments qui sont mis en avant par ta théorie? Est-ce que tu veux bien nous en parler, d'abord nous la présenter et puis donner des arguments?
Alors moi, je vais vous parler d'une théorie qui concerne notre territoire, notre belle France. Donc on retrouve aujourd'hui, depuis les années 80-90, des formes qui apparaissent un peu comme par magie dans les champs. Ces formes, on les appelle les Grove Pierre Caro. Donc en fait, ça va être des formes, des dessins géométriques qui vont vraiment apparaître sans raison dans des champs de céréales, de blé ou de maïs. Donc on va voir des blés, des brins de maïs et de céréales qui vont s'être couchés dans les champs et qui vont former ces jolies formes géométriques.
Et ça, c'est en France? On en trouve des
champs
comme ça en
France? Et ça, on en trouve
en France
surtout dans l'est de la France.
D'accord.
Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ces dessins sont, comment dire, même parfaits. Ils présentent peu d'irrégularités. Et si on s'attarde sur les formes qui y sont dessinées, on peut y voir les mathématiques. On entend là par les mathématiques le nombre phi qui va apparaître dans ces formes-là, le nombre d'or, et même les suites de Fibonacci. Pardon. Et certaines personnes pensent que ces mathématiques sont porteurs d'un message. Et donc que ces crop circles sont porteurs d'un message et ont peut-être été fabriqués, créés par des êtres venus d'ailleurs, venus d'en haut.
Et est-ce qu'il y en a qui apparaissent comme ça du jour au lendemain ou c'est des...
Et ce qui est assez amusant de s'apercevoir, c'est que oui, vraiment, c'est qu'en l'espace d'une nuit, dans un champ, il va apparaître un crop circle. Ces gens disent que ce ne peut pas être les humains qui fabriquent ces crop circles. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Notamment le fait que c'est vraiment des formes très jolies à vue d'en haut, sans irrégularité. C'est des cercles qui sont faits sans piquer ni corde, parce que sur le champ, on ne va pas retrouver de trous de piquet dans le sol. Donc faire des cercles sans piquer ni corde, c'est extrêmement dur à faire. Notamment, il y a d'autres petits arguments, comme le fait que la nuit, quand on va dans ces champs prendre des photos de ces crop circles, il y a des orbes lumineuses qui flottent dans l'air dans ces champs-là.
Ça a été raconté par qui?
Ça a été raconté par ces gens qui s'intéressent aux crop circles. Et aussi,
il y a des spécialistes là-dessus.
Et surtout, c'est des gens qui ont pris des photos la nuit de ça. Aussi, on peut voir que certains épis de blé sont en fait coudés. Ça veut dire qu'ils vont être couchés dans le sol, mais la tête de l'épi de blé va remonter. Et sauf que ça, c'est pas naturel, c'est pas présent dans la nature, du moins c'est ce que disent tous ces spécialistes. Et ce qui choque le plus ces spécialistes, c'est l'énergie radiésique qui est présente, radiesthésique qui est présent dans ces champs.
C'est quoi du coup ça?
Alors en fait, ça c'est une énergie que sont capables de déterminer du coup ces spécialistes des crop circles. Ils vont aller sur ces champs avec un petit pendule et comment t'appellerais ça?
Une espèce de charte, quoi. Une espèce de.
Un petit graphique sur lequel ils vont faire tourner le pendule. et en le pendule va tourner comme par magie, et ils vont dire c'est à cause de l'énergie radiesthésique présent dans ces champs. Sauf que ce qui est amusant de remarquer, c'est qu'il y a un homme, un youtubeur, donc une personne qui fait des vidéos sur YouTube, qui s'appelle AstronoGeek, et qui s'est amusé à tromper ces personnes-là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est rendu dans un champ la nuit, avec l'accord de l'agriculteur, et avec des amis, il a dessiné un crop circle. Le lendemain, il y a des dizaines de personnes désintéressées qui sont venues sur le champ et qui ont commencé à analyser ce crop circle, donc des spécialistes du crop circle en France. Ce qui est drôle, c'est que tous les arguments que je viens de vous citer juste avant, ils ont été démontés, brisés, cassés par ce monsieur AstronoGeek. Vous prenez par exemple l'énergie radiesthésique. Les spécialistes sont arrivés, ils ont sorti leur petit pendule et ils ont dit « Oula, oula, c'est pas normal ça. Il y a des taux d'énergie complètement dingues, je ressens. Mes mains tremblent, je le ressens. » Et ce qui est complètement fou parce que du coup ça a été fait par les humains et non par les aliens comme ils le disent. Pareil, en fait, quand on regarde les blés de maïs qui sont coudés, c'est quand vous allez coucher des blés de maïs dans un champ, ils vont être attirés par la lumière du soleil et naturellement, en fait, ils vont se diriger vers la lumière du soleil. Ça, c'est quelque chose de très naturel. Donc, c'est pour ça que ces blés de maïs vont être coudés. Pareil, il a pu très bien tracer des cercles sans de piquets ou de cordes. Il a juste mis un homme au milieu du champ et il lui a fait tendre un espèce de... Oui, c'était une corde et il a tourné autour avec en fait une planche en bois pour aplatir les épis de blé. Donc, c'est quand même assez amusant de remarquer à quel point les arguments de ces gens-là sont infondés et facilement cassables.
Voilà, pour le coup, c'est presque de la spéculation, parce qu'ils ont quoi comme preuve, bon, j'allais dire concrète, mais c'est un grand mot, ils ont quoi comme preuve les gens qui sont adeptes des crop circles?
Bah, comme je vous dis, ils observent en fait plein de petits détails qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à expliquer. Sauf que si tu t'attardes dessus et que tu te poses les bonnes questions, tu te rends compte que c'est des choses facilement démontrables. En fait, eux, ils partent du principe, ils partent de la conclusion. Eux, ils se disent, ok, c'est les aliens qui l'ont fait, c'est les aliens qui ont fait ces crop circles.
Regardez la preuve.
Ouais. En fait, regardez la preuve et ensuite, on va essayer de trouver tous les petits détails qui vont
montrer, ça.
Montrer cette conclusion.
Alors, en fait, ce qu'ils utilisent, c'est un truc qu'on appelle un argument irréfutable. C'est-à-dire que c'est un argument qui n'est pas, qu'on ne peut pas prouver faux. Ça ne veut pas dire qu'il est vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas de méthode qui n'est pas de le prouver faux parce qu'ils vont toujours rajouter quelque chose derrière. Ça s'est passé la nuit, oui, mais ça pourrait être des gens. Oui, mais tu comprends, les gens, ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont trop, c'est trop précis, alors qu'ils n'ont aucune preuve. Et derrière, tu leur dis, mais si, ils peuvent faire ça. Oui, mais ils ne peuvent pas faire d'énergie avec mon pendule. Oui, mais regarde, je peux refaire un mouvement avec ton pendule. Oui, mais c'est parce que ton esprit, il modifie, parce que tu n'y crois pas. Et ils vont construire un argumentaire comme ça derrière qu'on ne peut pas démontrer faux parce qu'il y a toujours une explication derrière inventée, fantaisiste.
Ouais, moi, c'était marrant parce que du coup, j'avais écouté cette émission-là sur YouTube. Et en fait... ils interviewaient un homme et il disait ouais, moi je vois souvent des hélicos de l'armée passer et tout. Clairement, c'est pas net. Il y a forcément quelque chose qui se passe ici, quoi. Donc c'était ça son argument un peu.
Alors qu'en fait, oui, j'avais parlé avec Arnaud Thierry quand il a fait son cercle. J'étais à une réunion juste après. Il nous avait expliqué justement que c'est à côté d'une base militaire, leur crop circle. Du coup, forcément, le militaire, quand il est parti faire son entraînement, il s'est dit tiens, il y a un dessin, il a fait le tour. Et c'est juste un hélicoptère qui a fait un tour à un moment. Et puis après, pendant toute la journée, les gens parlaient. Oui, tu comprends, il y a les militaires qui sont arrivés. Donc ça va être, ils nous cachent des trucs, ils savent, tout ça.
Et donc c'est beaucoup d'arguments qui sont utilisés de manière assez non démontrée. Et d'ailleurs, on va continuer là-dessus à parler d'arguments. En fait, on va directement parler de comment on construit une théorie. En fait, quels arguments sont utilisés pour construire une théorie. Et mais d'abord, avant ça, on va vous mettre une petite musique.
C'est ça, restez avec nous et à tout de suite.
To make you laugh,
Voilà, re-bienvenue sur Graphite. Nous sommes dans les échos de l'innovation, en train de parler de théorie du complot et d'arguments fallacieux. Nous allons donc reprendre notre débat. Nous avions parlé de trois théories du complot. Celle sur les récentistes, celle sur les pyramides et enfin celle sur les crop circles. Voilà.
Exactement. Et maintenant, on va voir en fait comment on peut construire une théorie du complot avec des arguments qui sont recevables pour certaines personnes. Donc on va laisser la parole à Nicolas, qui va donc nous expliquer comment on construit une théorie du complot.
Tout à fait. Alors avant de continuer, je voulais juste revenir un peu sur ce qu'on avait dit avant, pour préciser qu'évidemment, on n'a fait que survoler les sujets. Donc si vous êtes intéressé, alors pour les récentistes, je ne sais pas, mais pour la destruction des arguments fallacieux pour la pyramide de Gizeh, je vous invite à voir l'interview de Jacques Grimaud par la chaîne de YouTube La Tronche en Biais. Et pour ce qui est des crop circles pour l'expérience d'Arnaud Thierry, vous pouvez voir sa série de vidéos sur sa chaîne AstronoGeek. Voilà. Et donc à présent, moi je vais vous parler de la manière dont se construit une théorie du complot. Alors on entend souvent dire qu'avec les réseaux sociaux, nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité, où l'information aurait la même valeur que le mensonge et où il serait impossible de distinguer le vrai du faux. Eh bien, personnellement, moi je pense que c'est une bonne chose, parce que quand on y réfléchit, les mensonges et les fausses vérités n'ont pas attendu notre ère, notre époque pour apparaître. Donc le fait qu'on en parle maintenant, ça montre qu'il y a une prise de conscience collective et une méfiance envers les informations qu'on reçoit. En revanche, évidemment, je pense que le fait de se poser, de s'interroger là-dessus, ça devrait être seulement la première étape qui doit pousser les citoyens à s'interroger sur la valeur à donner à l'information. Et il est nécessaire de comprendre les méthodes utilisées pour transmettre les fausses informations pour pouvoir se défendre contre elles. Donc les théories du complot sont une bonne base sur ce thème, car elles mettent en œuvre toutes ces méthodes et font l'objet d'un consensus scientifique en général. On peut les débunker facilement. Alors, on a parlé des arguments fallacieux qui créent une illusion de logique, mais il y a plein d'autres méthodes que l'on retrouve dans les théories du complot, comme dans les dérives sectaires ou les campagnes de propagande de politique. Et donc dans cette partie, je vais vous expliquer comment se met en place une théorie du complot et pourquoi nous y sommes tous susceptibles. Alors, la première étape d'une théorie du complot, c'est la désinformation. Alors, il faut savoir que les méthodes utilisées pour désinformer sont rarement un simple mensonge ou un canular, mais plutôt une satire ou un faux contexte. La désinformation est toujours plus efficace lorsqu'elle contient une part de vérité. Et les techniques qui jouent sur les émotions pour inciter à partager sans vérifier les informations sont les plus efficaces.
Du coup, est-ce que tu veux dire c'est que c'est assez simple en fait de faire circuler un mensonge sur Internet, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Mais est-ce que ça touche vraiment toutes les personnes ou ça va viser que ceux qui croient déjà un petit peu ou qui ont déjà des soupçons sur la chose ? Est-ce que ça va toucher tout le monde ?
Alors, oui, parce qu'on pourrait penser que oui, c'est ça, que les informations ne visent que ceux qui y croient. Mais c'est faux. Même si vous ne croyez pas une information que vous voyez sur le net, le simple fait que vous la voyez, ça permet une chose qu'on connaît bien en politique, qui s'appelle d'ouvrir la fenêtre d'Overton. Alors, j'explique. Une fenêtre d'Overton, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre de ce qui est acceptable politiquement dans une société. Et donc, le fait de répéter et de familiariser les gens avec un argument, ça le rend plus acceptable. Donc, le fait de voir passer plein de choses sur l'idée que la Terre est plate, petit à petit, certaines personnes, ça va les amener vers cette conclusion.
Mais où est-ce qu'ils trouvent cette information ? Parce que les médias classiques, ils les relient pas. Donc comment en fait ils vont retrouver cette information ? Comment ils y sont sensibles ?
Eh bien, le facteur le plus important de propagation des théories du complot, c'est les réseaux sociaux. Donc on a beaucoup de vecteurs sur Internet de propagation des fausses informations, donc les blogs, les posts, les faux sites d'information, mais surtout on a les mèmes.
Alors, qu'est-ce que c'est un mème déjà ?
Oui, alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un mème, un mème c'est une espèce de code, enfin ça peut prendre toutes les formes, mais c'est une espèce de code de l'Internet, comme une private joke que tout le monde comprendrait en fait sur Internet. Je prends un exemple tout bête, Confession Bear, c'est un mème qui est une photo d'un ours, donc quand on la voit comme ça on ne sait pas du tout ce que ça représente ou quoi, mais les internautes se sont mis à utiliser cette photo d'ours à mettre des textes où ils avouent des choses honteuses, et donc du coup peu à peu, on s'habitue, quand on voit cette photo, on sait que le texte avoue quelque chose de honteux, et tout le monde le sait. Pourtant, il n'y a pas vraiment d'explication là-dessus. Et ça, c'est quelque chose d'implicite. Et ça, c'est très important, parce que la force des mèmes vient de cet implicite. Les mèmes poussent à tirer ses propres conclusions. Ils nous donnent pas l'information, ils nous donnent pas la conclusion, ils nous disent juste, voilà les faits, conclus. Et donc, du coup, les gens vont faire les conclusions, et avoir l'illusion d'avoir réfléchi, mais ce ne sera pas vraiment le cas. Je prends un exemple que j'ai vu il y a quelques jours, de mème sur la Terre plate. Alors c'était deux photos côte à côte, il y en avait une qui représentait donc la Terre vue de l'univers, et l'autre aussi, mais sur l'une des deux, l'Amérique était beaucoup plus grosse que sur l'autre. Et donc le texte disait juste, voilà, si vous ne croyez toujours pas qu'on vous ment, bah, je ne peux plus rien pour vous. Alors forcément, quand on voit ça, sur le coup, on n'a pas la réponse, on ne sait pas comment ça se fait. Alors quand on se renseigne, on sait que les satellites qui prennent les photos ne sont pas assez loin de la Terre pour la prendre en entier, et toutes les photos sont composées en fait à partir de plusieurs photos de satellites, et donc après elles sont projetées sur une sphère, donc selon le nombre de photos qu'on a prises, la distance du satellite, on aura l'impression que la sphère est plus grande ou plus petite, et que l'Amérique est plus grande ou plus petite dessus. Mais quand on ne sait pas ça, on va se sentir un peu bête, on va se dire mais je comprends pas, c'est pas logique, c'est vrai, et donc on va cliquer sur la photo, voir ce qu'il en est, voir, essayer d'avoir des explications, et donc quand on fait ça comme je l'ai fait, on tombe sur un compte Twitter où il n'y a que des mèmes comme ça, en boucle, avec les mêmes arguments qui sont répétés sans cesse, avec différentes photos, différentes illustrations, et donc c'est très facile de peu à peu être convaincu que la Terre est plate, parce que de se dire que c'est pas logique que la Terre soit ronde, et si on ne va pas chercher d'informations ailleurs, on sera convaincu et on deviendra un platiste, parce qu'en plus sur ces sites on insulte les globulistes ou les, je sais pas comment ils appellent ça, les gens qui croient que la Terre est ronde. Et souvent, on les bloque quand ils essaient de commenter.
C'est ça, les platistes, donc c'est les gens qui pensent que la Terre est plate.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, parce que je ne l'ai pas dit, mais cet argument, enfin, ce même a pour but de convaincre les gens que la Terre est plate, qu'on nous ment sur le fait que la Terre est ronde.
D'accord. Quelqu'un voulait enchaîner sur quelque chose ?
Non, mais moi, je voulais juste ajouter que, par rapport à ce que tu as dit, clairement, on voit exactement ça dans l'émission sur les pyramides. Donc, c'est clairement ça. On nous noie dans les informations sans jamais tirer de conclusion. Donc, jamais on nous dit, regardez, c'est la preuve qu'il y a les petits hommes verts. Juste, ils laissent des choses en suspens. Et voilà, exactement. Et donc, on tire nos propres conclusions, quoi.
Et le fait de tirer ses propres conclusions qui sont amenées, justement, en cachant certains contextes, certaines informations, ça donne l'impression d'avoir réfléchi.
Alors qu'en fait, non.
Donc, on se dit, je sais que les pyramides ont été faites par des aliens parce que j'ai réfléchi. Parce que j'ai eu des arguments, j'ai vu les trucs et j'ai réfléchi avec ma tête à moi, quoi.
Mais donc, dans ces cas-là, excuse-moi, je te coupe, ça veut dire que ça dépend de ce qu'on sait déjà de base et ce à quoi on a affaire tous les jours. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui seraient plus sensibles, qui auraient plus de chances en fait, de croire à une théorie du complot que d'autres enfin...
Alors,
les
facteurs qui favorisent les théories du complot, ils sont nombreux. Il y a des personnes forcément qui sont plus susceptibles que d'autres. Et je vais juste m'attarder sur l'une parce qu'on n'a pas le temps de toutes les énumérer, mais par exemple, c'est le communautarisme. On a plus tendance à faire confiance aux personnes qui appartiennent à notre groupe. Et là encore, c'est favorisé par les réseaux sociaux qui, justement, se divisent en groupes de personnes qui communiquent. On l'a vu, par exemple, pour les platistes qui, surtout, bannissent ceux qui ne font pas partie du groupe pour empêcher les contre-arguments. Et donc, j'ai un exemple qui a pris part aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, on a des communautés, certaines communautés qui sont fermées, notamment celle qui nous intéresse là, c'est la communauté des juifs orthodoxes de Brooklyn, qui, en fait, ont été à la cible d'une campagne anti-vaccination. Et donc, les personnes qui, à l'origine de cette campagne, ont utilisé des flyers de pseudo-informations sur la vaccination. Et en fait, ils ont sélectionné les arguments pour viser cette communauté-là. Par exemple, l'une des informations, c'était les vaccins contiennent de la gélatine de porc. Or, on sait que voilà, la religion juive interdit de manger du porc et du coup, s'injecter du porc, c'est pas une bonne chose.
Oui, mais ça, du coup, c'est carrément un mensonge, en fait.
C'est pas un mensonge, il y a des vaccins. Qui, justement, c'est un faux contexte. Il y a des vaccins qui ont de la gélatine de porc. C'est extrêmement rare. C'est un vaccin parmi d'autres.
Okay, ouais.
Et ce vaccin-là a une alternative sans gélatine de porc.
Ok, donc en fait, ils ont sorti clairement le truc du contexte et, voilà. Et ils l'ont mis sur un flyer.
Donc ils ont dû mettre une phrase du genre, voilà, certains vaccins ne sont pas compatibles. Par exemple, un tel avec la gélatine de porc. Et du coup, la conclusion que se font les gens qui disent le flyer, c'est tous les vaccins... ont un truc qui me va pas.
Ouais. J'ai une chance de tomber sur un vaccin qui contiendra de la gélatine de porc.
Oui, et du coup, ça, c'est ce qui a causé une épidémie de rougeole dans la communauté des juifs orthodoxes de Brooklyn.
Une autre chose qui m'a remarqué dans tous ces documentaires qu'on a regardés, c'est le rôle des faux experts, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler ou pas, Nicolas ?
Alors, oui, c'était pas en partie, mais tout à fait. On a beaucoup de... c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité, en fait, des gens qui vont dire moi je sais parce que je suis expert en tel truc. Et c'est encore plus insidieux, il y a des gens qui sont réellement experts, mais qui sont également des charlatans. Par exemple, on en parlait dans
les gens des pendules pour les crops.
Oui, mais là, par exemple, c'est des experts de rien du tout. Enfin, c'est des gens qui pensent être experts, mais voilà, c'est. Mais je prends un autre exemple, on parlait de l'homéopathie dans la dernière émission. Il y a alors je ne me rappelle plus de son nom, mais il y a un prix Nobel de médecine. Qui a reçu prix Nobel pour avoir découvert le virus du sida avec son équipe, qui après a ouvert un laboratoire de diagnostic basé sur la mémoire de l'eau. Alors il faut savoir que la mémoire de l'eau, je ne vais pas partir dans les détails, mais en fait c'est une pseudo-science, et il y a eu des recherches dans les années 80, et en fait ça a été démontré que c'était faux, que ça ne marchait pas, mais ils basent ça là-dessus pour faire des diagnostics extrêmement chers, vous le payez, pour qu'ils vous fassent un diagnostic de je ne sais plus quelle maladie, si vous avez la maladie de Lyme, je crois, il vous le dit, basé sur la mémoire de l'eau.
Dans ces cas, ça sert à quoi alors pour lui de créer des théories ? En général, à quoi ça sert de créer des théories ? Dans ce cas-là, c'était plus pour l'argent, apparemment. Il gagnait des sous grâce à ça. Mais ce n'est pas toujours le cas d'argent, par exemple. Pour les récentistes, je ne vois pas ce que ça lui apporte de réécrire l'histoire. Est-ce qu'ils y croient vraiment ou c'est un phénomène
Oui, clairement. En fait, ils utilisent les maths. En l'occurrence, moi je parle des récentistes parce que c'est plutôt sur ça que je me suis renseignée. Mais ils utilisent clairement les maths et ils l'appliquent à l'histoire. Et en fait, dès qu'il voit une conclusion, je pense clairement qu'Anatoly Fomenko, il est persuadé de ce qu'il a démontré. Et Et en fait, c'est surtout aussi que ça appuie un peu la suprématie russe. Donc c'est aussi à ça que ça sert. Dire la Vierge Marie, elle était russe, les rois mages, c'était des Russes.
Ah oui, d'accord.
Enfin, ça appuie un peu la suprématie russe. Donc je pense que c'est aussi à ça que
c'est aussi
sert.
Un but un peu personnel.
Voilà, exactement.
En fait, il y a trois buts principaux qu'ont décelé les chercheurs dans les théories du complot et dans la désinformation en général. Le premier, c'est exercer une influence politique ou idéologique, comme tu disais. Le second, c'est gagner de l'argent, comme dans le cas des faux diagnostics. Et le troisième, c'est simplement susciter des troubles par plaisir de susciter des troubles. C'est ce qu'on appelle le trolling, en fait. C'est les trolls. Théorie du complot, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Ces mêmes techniques que l'on a vues sont utilisées de manière plus discrète pour propager des idéologies ou préparer le terrain à des actions politiques. Et ça, il faut savoir qu'on y est tous sujets. Dès qu'on est sur un réseau social, qu'on voit passer des mèmes, qu'on voit passer des articles, qu'on voit passer des choses comme ça, il y a des gens derrière qui cherchent à nous influencer. Donc on peut se moquer des platistes ou des antivax, mais personne n'est immunisé contre ces méthodes de manipulation. Et on les observe dans toutes sortes de contextes. Par exemple, si on regarde les élections américaines de 2016, on a eu une grosse influence russe, notamment via les mèmes ou des articles ou des groupes Facebook. Ils ont même créé des événements Facebook pour faire en sorte que, par exemple, au Texas, il y ait deux manifestations le même jour au même endroit, l'une contre les musulmans et l'autre pour la liberté d'expression des musulmans ou un truc comme ça, dans le simple but de créer des tensions. Donc ça existe. Il faut savoir que ça se passe sur Internet, ça.
D'accord. Donc il y a tous ces phénomènes qui sont créés. Maintenant, on va voir comment on peut limiter ces théories, comment on peut les combattre. Mais avant ça, on va écouter une musique.
Et on se retrouve donc bientôt. Restez avec nous. Rebienvenue sur Graphite. On est en plein débat sur les théories du complot et sur les arguments fallacieux. Agathe, est-ce que tu pourrais nous restituer, s'il te plaît?
Alors, on a d'abord présenté en fait différentes théories et ensuite Nicolas nous a expliqué comment on pouvait construire une théorie du complot et en fait avoir des adeptes à cette théorie. Donc maintenant, on va voir en fait, est-ce que ces théories posent vraiment problème dans notre société? Quel est leur impact sur la société et sur nous en général? Donc Eugénie, je te laisse la parole en premier.
Alors en fait, est-ce que c'est un problème si ces gens parlent et étayent leur théorie? Alors la vérité, c'est que c'est quand même la liberté d'expression à la base, donc on ne peut pas juste les faire taire et leur dire alors toi, j'aime pas ce que tu dis, donc tu parles pas, quoi.
Je trouve que ça peut soulever de réels problèmes. Comment on fait la différence entre une théorie du complot et juste,
juste un fait réel. Puis souvent, ils sont pas si directs. C'est-à-dire que ils vont pas directement au fait en mode y a des petits hommes verts. Ils laissent plutôt la porte ouverte à du questionnement, quoi.
Et aussi, on observe qu'en général, quand on fait taire ces gens-là, ou même quand on les critique sans les faire taire, après, ils crient au scandale, ils disent oui, la liberté d'expression, on essaie de me faire taire, on me cache des choses.
Ils jouent leur droit, ils ont raison en soi.
Voilà. Bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les études montrent que, en général, quand on a des réseaux de désinformation sur Facebook, par exemple, c'est très efficace de supprimer des comptes ou de bloquer des gens, des désinformateurs, pour limiter la propagation des théories du complot. Et ça peut permettre d'éviter à des gens assez crédules de tomber dedans.
Mais est-ce que ce ne serait pas du coup un enfreint à leur droit de liberté d'expression, de supprimer leur compte sur Facebook?
Bah, moi, c'est là où je suis même un peu contre ce que dit Eugénie et pas en accord avec elle. Puisque moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. C'est quand j'étais en troisième, il y a mon professeur de mathématiques qui m'a montré ce documentaire sur la révélation des pyramides. Et moi, j'étais en troisième et je n'avais pas forcément tous les outils nécessaires pour analyser les arguments de l'homme qui a fait le journaliste, etc. Quand je suis ressorti, après l'heure de cours, on a regardé ce documentaire, j'étais complètement abasourdi. Je me disais, oula, il y a un truc qui cloche, c'est complètement bizarre, c'est pas normal. J'ai commencé à croire que les pyramides de Gizeh avaient été construites dans un but spécial, etc. Or, 6 mois plus tard, j'ai regardé du coup la vidéo d'un géologue qui démontait les arguments de l'homme qui a fait le documentaire. Et ça m'a remis en place littéralement. J'étais un peu sous le choc. Donc c'est juste pour dire que quand on va parler de tous ces complots, etc., ça peut avoir des conséquences. Je vais aussi vous raconter l'histoire d'un homme qui avait...
Attends, je te coupe une minute. Et ton prof qui t'a montré ça, est-ce qu'il y croyait à ces théories ou c'était juste dans un but pédagogique de dire qu'il y avait des théories?
Mon prof est arrivé en classe et en disant « j'aimerais vous montrer ça, ça va vous faire réfléchir ».
Ah oui, donc,
et je
donc
pense qu'il était persuadé qu'il y croyait.
Ouais, mais okay, ça, du coup, c'est grave quand même.
Et ça, que oui, ce soit un prof, donc déjà, c'est grave en premier temps, mais je pense qu'on peut aller même plus loin. C'est pour ça que je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui, quand il avait la quarantaine, on a détecté chez lui un cancer du pancréas qui était assez léger. Il aurait pu être soigné très rapidement par les méthodes traditionnelles. Sauf que cet homme ne voulait pas qu'on touche à son corps par ces médecines-là, donc avec une chimiothérapie, etc. Lui croyait aux médecines alternatives, il a fait de l'acupuncture, il a mangé que des végétaux durant 10 ans. Il n'a pas voulu qu'on le soigne avec des méthodes traditionnelles. Sauf qu'à l'âge de 50 ans, ce cancer s'est aggravé et les années qui ont suivi, il en est mort. Cet homme, c'était Steve Jobs et sa mort est directement liée à ça. Donc c'est pour montrer que toutes ces théories du complot, ça peut avoir un impact très grave et même jouer avec la vie des gens.
Oui, on peut prendre l'exemple des anti-vax aussi, hein, c'est pareil.
Oui. Après, je suis d'accord avec toi, Vincent, mais pour moi, ils ont quand même leur liberté d'expression. Juste, ils doivent, ils ne doivent pas mentir, tout simplement. Parce que ce qui s'est passé aussi dans cette émission, la révélation des pyramides, c'est qu'en fait, ils donnent des arguments ou des soi-disant arguments, en fait, qui sont complètement extraits de leur contexte. Donc, certains diront que c'est pas mentir, mais la vérité c'est que c'est mentir quand même un petit peu, quoi.
Mais après, la question aussi c'est comment contrôler et limiter aussi la désinformation.
Oui, parce que c'est sûr que c'est important, mais on peut pas juste leur dire d'arrêter de parler, quoi.
Et donc dans ces cas-là, est-ce que la solution ce serait pas plutôt de démontrer que c'est faux, en fait, de dire bah cette théorie elle est fausse, on vous explique pourquoi, et de rendre ces informations plus de les exposer plus largement que la théorie du complot n'a été exposée pour justement la combattre.
Bah, moi, clairement, je pense qu'on n'étudie pas suffisamment l'esprit critique à l'école. Il faudrait vraiment des programmes d'études, justement, qu'on vienne en classe, on montre une théorie, on la démonte, et puis surtout, on montre comment on peut utiliser ces méthodes, comment on peut les appliquer dans le monde réel, en fait. Comment est-ce qu'on peut les appliquer pour des trucs plus insidieux, comme des propagandes politiques, des choses comme ça.
Je ne pense pas qu'il faille démonter une théorie en particulier, parce que les croyances, elles sont libres à chacun, en fait. Chacun a le droit d'avoir ses croyances. Et je pense que, oui, il faut développer l'esprit critique des gens, mais... pas en prenant un exemple et en le démontant entre guillemets quoi. Enfin, c'est pour le coup, c'est pas leur laisser le choix en fait. Chacun devrait avoir le choix de au niveau de ses croyances.
Bah, au moins pour des canulars avérés, par exemple, quand je sais pas pour les aliens, quand c'est quelqu'un qui a pris une photo d'un objet en plastique.
Oui, mais
et
encore
qui a
une fois, c'est un mensonge carrément.
C'est un mensonge, oui.
Ouais.
Après, il y a de nature des gens plus rationnels que d'autres et. Et donc, à ce moment-là, on ne pourrait pas contrôler non plus n'importe qui et tout le monde, du coup. La désinformation, il faut la contrôler et la limiter, mais chacun a ses croyances.
Ouais.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a des croyances. Ce n'est pas possible de vivre sans croyances. Toutes les décisions, on ne peut pas tout savoir. On prend des décisions basées sur des choses que l'on croit et qu'on ne sait pas, toujours. Sauf que, quand même, ce qu'il faudrait au moins, c'est apprendre aux gens à faire la part des choses entre ce qu'ils savent et ce qu'ils croient. Et ça, souvent, ils ne
le font pas. Ah oui, je suis d'accord,
ouais. Ouais, c'est vrai.
Très bien, merci beaucoup chers auditeurs d'avoir suivi cette émission des Échos d'Innovation. Avant de nous quitter, on va faire donc un petit rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui et voilà.
Oui, alors juste avant, je veux juste préciser, pour ceux que le sujet intéresse, il y a un excellent dossier sur le sujet, on n'a pas eu le temps de tout traiter, dans le numéro 505, donc le dernier numéro du magazine Pour la Science, daté de novembre 2019. Donc pour ceux qui sont à l'UTC, il est à la BU et pour les autres, vous pouvez le trouver en bibliothèque ou chez votre marchand de journaux.
Merci à tout le monde. Merci d'avoir été présents pour cette émission. Nous sommes ravis d'avoir pu être écoutés et entendus, on l'espère. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine émission.